Voilà, j'aimerais passer un peu de temps avec vous à regarder ce qui s'est passé dans la vie d'une autre église et qui peut probablement être pour nous aussi un encouragement, un enseignement. Alors, c'est une église qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 13, l'église d'Antioche. Et l'épisode qui va s'y dérouler, je pense que vous l'avez déjà tous lu un jour, où il s'agit de cet appel de Paul et Barnabas en mission. Donc je vous invite à lire les trois premiers versets du chapitre 13, et puis on sautera directement au chapitre 14, les versets 26 à 28. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc le reste du chapitre 13 et le chapitre 14 nous racontent ce récit de ce premier voyage missionnaire de Paul. Comme ce serait un peu trop long de tout lire, nous allons arriver directement au retour de Paul et Barnabas à Antioche, au verset 26 du chapitre 14. Là, donc, d'Attalie, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis, et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent en particulier comment ils avaient ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent là assez longtemps parmi les disciples. Nous voulons prier. Seigneur, cette parole que tu nous as donnée, ce récit que tu as voulu nous faire parvenir, ont quelque chose à nous apprendre, à nous aujourd'hui, dans notre situation, bien loin de celle de Paul, bien loin de celle d'Antioche. Mais Seigneur, tu es le même Dieu, tu demeures tel que tu es éternellement. Et ta volonté pour nous aujourd'hui est la même que celle que tu avais pour cette église d'Antioche et pour Paul et Barnabas. Seigneur, nous te demandons ce matin de nous enseigner au travers de cette parole, de faire vivre pour nous dans nos cœurs ce que tu as mis lorsque ces paroles ont été écrites, qu'elles puissent parler pour nous personnellement, à chacun, et produire dans notre cœur un fruit qui jaillira jusque dans la vie éternelle, un fruit qui demeure, un fruit qui sera en bénédiction autour de chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que vous connaissez les punaises ? Pas les petits clous avec une grosse tête, là, avec lesquels on détruit les murs pour mettre ses photos de vacances, mais la petite bestiole. Là. Quelle est la caractéristique principale des punaises? Ça sent mauvais quand on les écrase. Alors il paraît, j'ai jamais essayé, mais il paraît que la substance qui produit cette mauvaise odeur a aussi un goût abominable. Alors l'intérêt c'est quoi? Eh bien c'est que si un jour vous écrasez une punaise, ou si vous êtes un prédateur et que vous en mangez une, eh bien la prochaine fois que vous en rencontrez une, vous ne le refaites pas. La première fois qu'on croise une punaise et qu'on l'a écrasée, eh bien si on en revoit une le lendemain, on prend une feuille de papier, on la ramasse avec soin, on la jette par la fenêtre, et puis le prédateur qui en a mangé une fois, eh bien la fois suivante il va chercher son repas ailleurs. Alors quel est l'intérêt pour la punaise qui s'est fait écraser ou manger d'avoir détourné une partie de son énergie vitale pour produire une substance malodorante? Pour la punaise qui s'est fait manger ou écraser, c'est pas très intéressant. Par contre, si on regarde les choses d'un petit peu plus haut, si on regarde au niveau de toute l'espèce punaise, eh bien c'est intéressant pour les autres punaises qui sont restées vivantes, parce qu'elles sont protégées, parce que justement ceux qui ont eu un jour la mauvaise chance de faire cette expérience désagréable ne recommencent pas. La punaise pour elles produire cette substance malodorante, c'est coûteux en termes d'énergie. Une partie de l'alimentation qu'elles trouvent plus ou moins facilement et détournée de l'usage général pour cet usage particulier. Mais le bénéfice est pour l'espèce tout entière. Et quelque part, eh bien, la stratégie de Dieu pour la mission ressemble un petit peu à celle de la punaise. Donc vous venez d'assister en direct à la naissance du dernier concept missiologique, le paradigme de la punaise. Et je vais m'expliquer parce que peut-être que ça ne paraît pas aussi simple au premier coup d'œil. Ce qu'on constate à la lecture du texte, c'est que l'église d'Antioche n'avait pas vraiment intérêt à envoyer Barnabas et Saul en mission. D'abord, c'est d'un seul coup 20% de l'ancienat qui disparaît. On compte, hein, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaëm et Saul, 5 personnes, on en retranche 2. Les mathématiciens calculent vite, ça fait 20%. Et puis, les deux qui s'en vont, c'est pas n'importe qui. D'abord, Saul, un prédicateur, un théologien de premier ordre. Bon, on aurait préféré le garder dans l'église, mais il s'en va. Et puis Barnabas qui est le modèle du pasteur berger, celui qui était toujours là pour arranger les choses, celui qui avait permis à Paul d'intégrer la communauté chrétienne alors qu'il était considéré par tous comme le persécuteur de l'Église. Il a fait confiance. C'est lui aussi qui voulait faire confiance à Jean-Marc au point qu'à un moment donné, Paul et Barnabas ont eu des mots et ont dû se séparer. Cet homme plein de douceur, cet arrangeur de difficultés, ce pasteur dans l'âme, certainement ce n'était pas une bonne affaire pour l'église d'Antioche de s'en séparer. Et puis le texte ne le dit pas explicitement, mais très probablement l'église a dû mettre la main à la poche et pourvoir aux frais de voyage de Paul et Barnabas. Ils n'ont pas eu le temps de convoquer une assemblée générale, ils n'ont pas eu le temps de voter un budget missionnaire, il a donc fallu certainement qu'ils prennent sur d'autres choses pour pouvoir les envoyer en mission. D'une certaine manière, l'envoi de Paul et de Barnabas en mission, loin de l'Église, avait à peu près le même intérêt pour cette Église d'Antioche que celui que notre petite punaise a détourné une partie de son énergie pour produire cette substance malodorante. Aucun avantage apparent, rien que des inconvénients. Dans beaucoup d'églises dans lesquelles je passe, il est fréquent de considérer que l'envoi d'un membre de l'Assemblée en mission ou le soutien d'un projet missionnaire au loin, dans un pays qu'on ne connaît pas, dans un contexte qui ne nous est pas familier, eh bien c'est trop lourd pour l'Église, c'est une charge. Il y a tant de besoins si nombreux, il y a tant de projets dans lesquels on peut s'investir, il y a tant d'occasions pour utiliser les dons qui sont dans notre Église, là, juste à notre porte. Il y a besoin de gens pour aller ce soir évangéliser dans les rues de Toulouse. Il y avait besoin de pas mal de monde, j'imagine, pour organiser la sortie pour laquelle on a eu la vidéo tout à l'heure. Il y a toujours besoin dans l'Église et quelque part de considérer qu'une personne doit partir loin de l'Église ou que des ressources financières doivent être prélevées sur l'Église pour autre chose ailleurs, c'est pas vraiment ça qu'on a envie de faire en premier lieu, c'est pas ça qui s'impose d'emblée. Alors est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est utile? Il semblerait, puisque c'était ce que Dieu a demandé à l'Église d'Antioche. L'Église d'Antioche a accepté de faire ce que Dieu lui demandait, et certainement en le faisant de plein cœur, il y a quand même des questions qui n'étaient pas résolues à ce moment-là. Alors pour voir les choses un petit peu autrement, il faut regarder la fin de l'histoire, et nous par rapport à l'église d'Antioche, on a le gros avantage d'avoir la fin de l'histoire. Il faut faire un peu le bilan de ce temps de Paul et de Barnabas en mission, voir un peu ce que ça a produit, de se séparer de Paul et de Barnabas. Et quand on fait ce bilan, donc c'est ce qui a été fait à la fin du chapitre 14, on se rend compte que ça aurait été bien dommage pour nous, ici aujourd'hui, que l'église d'Antioche ne se sépare pas de Paul et de Barnabas. Qu'est-ce que nous lisons ? Ils exposèrent en particulier comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ouvert aux non-juifs. Est-ce qu'il y a des non-juifs dans la salle aujourd'hui ? En partant en mission, Paul, eh bien, a ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Si Paul et Barnabas sont partis en mission, eh bien, un des fruits, c'est que nous sommes dans cette salle ce matin. Ça aurait été bien dommage que l'église d'Antioche ne permette pas à Paul et à Barnabas de partir. Alors, s'il était resté à Antioche, j'imagine que l'église aurait été pleine à craquer tous les dimanches. Moi, j'aurais bien aimé entendre Paul prêcher, ça devait être quelque chose. Mais puisque l'église d'Antioche a obéi à l'ordre du Saint-Esprit et puisque Paul a quitté Antioche, eh bien le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre du vivant de Paul. On pense que Paul est allé jusqu'en Espagne et au-delà de l'Espagne, on ne connaissait rien du tout. En regardant les choses de ce point de vue, on réalise que le corps de Christ tout entier a été béni par ce sacrifice consenti par l'église d'Antioche. Si Paul était resté à Antioche, il aurait sans doute rédigé des manuels de théologie ou des manuels d'évangélisation de tout premier plan. Mais comme la plupart des manuscrits du 1er siècle, eh bien quelque chose me dit que probablement ils auraient pu disparaître et qu'aujourd'hui ce serait de la poussière quelque part au fond d'un site archéologique. Mais puisque Paul et Barnabas ont quitté Antioche, puisque Paul a vécu en mission les expériences qui l'ont contraint à écrire toutes ces lettres aux églises, aujourd'hui nous avons entre les mains, de la plume de Paul, la moitié du Nouveau Testament. L'apôtre Pierre lui-même dit de ces écrits de Paul, de son vivant, qu'elles font partie de l'Écriture. Puisque l'église d'Antioche a accepté de se séparer de Paul et de Barnabas, elle a perdu quelques ressources propres, internes. Mais nous, nous avons gagné une écriture qui, aujourd'hui encore, nous dirige, nous instruit, nous transforme. Il n'y avait aucun intérêt pour l'église d'Antioche à laisser partir Paul, mais puisqu'elle l'a fait, la communauté des croyants est visible ce matin. La communauté des croyants a entre les mains un ouvrage, l'écriture de Dieu qui lui permet de se diriger selon le plan de Dieu. Le défi qui a été posé à l'église d'Antioche est le même qui est posé à nos églises aujourd'hui. La mission a besoin de chrétiens mûrs, de chrétiens engagés, de chrétiens bien formés, de chrétiens qui ont des dons, et l'église locale aussi. La mission vit exclusivement des dons des chrétiens. Et l'Église, à moins que vous ayez des ressources cachées aussi. Alors, si on regarde simplement les choses avec un œil mathématique, avec une pensée rationnelle, il n'y a aucun intérêt direct pour une Église locale se séparer de quelqu'un pour l'envoyer en mission ou pour soutenir quelqu'un qui est en mission au loin. C'est en général une personne bien formée qui part, une personne dont les dons auraient été utiles à l'Église, une personne qui va drainer une partie des ressources financières de l'Église. Alors, est-ce que l'Église locale et la mission sont en compétition pour des ressources limitées ? J'espère bien que non. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a été vécu par l'Église dans beaucoup de contextes pendant de nombreuses années. Lorsque je suis parti en mission il y a 23 ans maintenant, ce n'était pas facile de contacter des églises pour leur demander pouvoir présenter notre projet missionnaire. La notion du soutien d'un missionnaire était quelque chose qui n'était pas répandu. Et il n'était pas facile de convaincre les églises de la nécessité d'entrer dans cette dimension missionnaire en concrètement se séparant d'une partie de ses ressources. Mais on se rappelle de notre petite punaise qui utilise ses ressources de manière altruiste pour que l'ensemble de l'espèce en recueille les fruits, même si elle-même n'en recueille pas de fruits immédiats. C'est la même chose qui se passe lorsque Dieu appelle une personne hors de l'église locale, lorsque Dieu appelle une église à consacrer une partie de ses revenus à quelque chose qui se passe loin de chez elle. Lorsqu'une personne est placée par Dieu dans un champ de mission, le fruit qui est produit est un fruit qui est produit pour l'ensemble du corps de Christ. Pas seulement pour l'église qui a envoyé, pas seulement bien sûr pour l'église qui va naître probablement du fruit de l'envoi de ce missionnaire, mais pour la totalité du corps. Donc ce qui est un sacrifice pour une église dans une partie du monde, eh bien c'est porteur de fruits pour une église dans une autre partie du monde, mais surtout pour l'ensemble du corps de Christ. Directement quand on s'appelle Paul, mais indirectement quand on est un missionnaire un peu plus anonyme. Et pourtant, il n'y a pas de compétition. Dieu ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul, selon l'expression consacrée. Dieu ne pille pas les ressources de l'église locale pour alimenter celles de la mission. Comment ça fonctionne? En Éphésiens 4, tiens, ça c'est Paul qui parle. En Éphésiens 4, on nous dit que Dieu donne à l'église les personnes dont elle a besoin. Dieu donne des pasteurs, des bergers, des enseignants, des prophètes. Dieu les donne ces personnes pour le développement de l'Église, pour que les membres puissent croître jusqu'à la stature parfaite de Christ. En Matthieu 9, on apprend aussi que le placement des ouvriers dans la moisson, eh bien, c'est la responsabilité du maître, c'est l'initiative du maître de la moisson. C'est lui qui place tel ou tel ouvrier dans telle ou telle partie du champ. Alors si Dieu comble les besoins d'une église à l'autre bout du monde en se servant dans notre église, si Dieu prélève un ouvrier dans notre assemblée pour l'envoyer dans une autre partie du monde, bien probablement il va aussi s'occuper de la santé de notre église. Il va aussi combler ce besoin, ce manque qui aura été créé dans notre église. Si Dieu pourvoit aux besoins financiers des ouvriers qui sont de l'autre côté du monde en prélevant dans notre assemblée une part de ces finances que nous mettons à part pour lui, eh bien, il va aussi pourvoir à des donateurs en nombre suffisant pour que les besoins de l'Église soient couverts. C'est trop facile ? Suffit d'essayer. Il suffit d'essayer de voir que lorsque Dieu promet, Dieu tient ses promesses. Et selon une formule consacrée, Dieu donne ce qu'il ordonne. On pourrait dire que, d'une certaine manière, Dieu ne connaît ni la mission ni l'église locale. Ce n'est pas des réalités qui l'intéressent. Ce que Dieu connaît, c'est le corps de Christ. C'est l'église avec un E majuscule. C'est les croyants de tous les temps et de tous les lieux. Ce que nous ne pouvons pas voir parce qu'ils ont vécu il y a longtemps dans une autre partie du monde ou parce qu'ils ne sont pas encore nés. Dieu connaît dans nos églises ce qui lui appartiennent et hors de nos églises aussi ce qui lui appartiennent et que nous ne pouvons pas discerner clairement. Dieu ne connaît ni la mission ni l'église locale, il connaît le corps de Christ, un dans sa diversité, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et Dieu s'applique à rendre cette église parfaite pour le jour des noces de l'agneau. Alors notre part n'est pas d'évaluer la stratégie de Dieu, et de considérer si oui ou non elle nous plaît et que nous pouvons y entrer. Notre part, c'est d'obéir à ce que Dieu a prévu. devient donc, en considérant tout ça, évident que la question n'est pas de savoir s'il est sage ou même simplement possible d'envoyer un missionnaire, s'il est sage ou simplement possible de soutenir une œuvre missionnaire, si même l'Église doit ou avoir ou ne pas avoir une vision, une dimension missionnaire. Le vrai problème est de savoir où, quand et comment Dieu nous met à l'œuvre individuellement et aussi en tant que communauté. La volonté de Dieu pour l'Église, l'Église avec un E majuscule, le corps de Christ dans son entier, c'est qu'elle soit son témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Vous connaissez ce texte aussi. Alors quelle est la partie de cet ordre que nous devons privilégier ? Jérusalem, ceux qui sont autour de nous, qui nous ressemblent. La Judée, ceux qui nous sont proches et avec qui il est facile d'entrer en relation. La Samarie, nos ennemis héréditaires, les extrémités de la terre qu'on ne voit pas, qui sont si loin. Je ne crois pas que cet ordre missionnaire comporte une dimension chronologique. On doit d'abord être à Jérusalem et puis ensuite, une fois que tout est accompli, passer dans la Judée et puis ensuite la Samarie. C'est une interprétation, c'est une vision de ce texte qui existe. Peut-être c'est la vôtre, j'espère que je ne vous choque pas en disant que ce n'est pas la mienne. Je crois que ce que Dieu voit, c'est la totalité du corps sur la totalité du monde, la totalité de ses enfants, ce que nous connaissons, ce que lui seul connaît encore. Alors bien sûr, on ne peut pas tout faire à la fois. Et si pour envoyer un ouvrier à l'autre bout du monde, eh bien on cesse d'organiser les dimanches d'évangélisation à Toulouse, on est passé à côté de la volonté de Dieu. Mais si pour se concentrer sur l'évangélisation du dimanche après-midi à Toulouse, eh bien on renonce à ce que Dieu nous demande de faire dans une autre partie du monde, eh bien on est aussi passé à côté de ce que Dieu nous demande. Notre service, que ce soit en mission ou dans l'église locale, notre service, c'est d'entrer dans le plan de Dieu là où il veut nous placer. Alors c'est vrai que parfois, et bien souvent même, c'est une obéissance qui coûte. C'est pas parce qu'on est au centre de la volonté de Dieu que tout devient facile, j'allais dire même bien au contraire. Lorsque l'église d'Antioche a accepté d'envoyer Paul et Barnabas, c'est comme si elle se coupait le bras droit. Elle a accepté de le faire. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté? Parce qu'elle était un petit peu masochiste? Non, elle a accepté parce qu'elle avait la certitude d'être en train de bâtir avec Dieu. Elle était pleinement en paix devant cette décision. Au verset 3, on lit « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » L'appel est venu alors que l'Église était en prière et lorsque l'appel a été entendu et qu'ils y ont répondu, eh bien, à nouveau, ils ont jeûné, ils ont prié et ils ont laissé partir. Ils sont entrés dans le plan que Dieu avait préparé pour Paul et pour Barnabas au travers de cette Église locale. Je ne voudrais pas vous vendre la cime ce matin. Je suis particulièrement concerné par cette organisation missionnaire, mais on n'est pas là pour bâtir la cime ou pour bâtir telle ou telle église. On est là pour accomplir, selon le plan de Dieu, les plans que Dieu confie à son église, parce que Dieu n'agit pas sans ses enfants. Je ne vous envoie même pas l'idée de la mission. Je pense que vous êtes déjà très mobilisés, très conscients de cette nécessité missionnaire, que ce soit auprès ou que ce soit au loin. J'aimerais juste vous rappeler la grandeur de cet appel, vous rappeler l'importance de se souvenir que nous sommes partie d'un corps qui nous dépasse infiniment, que nous sommes partie d'une vision, d'une mission qui est bien au-delà de ce que nos rêves les plus extraordinaires peuvent penser. Nous sommes partie d'une œuvre que Dieu est en train d'accomplir sous nos yeux, et une œuvre qui dépasse infiniment nos ressources, qui dépasse infiniment notre intelligence, qui dépasse infiniment nos capacités, mais une œuvre à laquelle Dieu nous associe. C'est magnifique, c'est enthousiasmant, et je crois que si on considère les sacrifices que Dieu nous appelle à faire individuellement ou en tant que communauté, à la mesure du résultat que Dieu a déjà préparé, du résultat qui est déjà acquis parce que l'œuvre de la mission, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, où est-ce qu'on signe ? J'aimerais juste, par cette image tirée de la nature et de quelques réflexions sur l'Écriture, vous exhorter non pas tous à déserter cette assemblée pour partir à l'autre bout du monde, mais à vraiment considérer comment Dieu veut vous impliquer, vous personnellement, comment Dieu veut vous impliquer, vous, en tant que communauté, en tant qu'union d'Église, quelle vision Dieu peut vous donner pour votre Jérusalem, pour votre Judée, votre Samarie, sans oublier de garder un œil dirigé loin vers les extrémités de la terre. J'aimerais vous exhorter à demander sincèrement à Dieu de quelle manière lui veut vous utiliser dans son grand projet de bâtir son Église, une Église à la mesure du corps de Christ. Et j'aimerais vous laisser juste ces versets que nous avons lus tout à l'heure comme peut-être fil rouge pour continuer cette réflexion, pour aller un peu plus loin, pour bâtir à partir de ces quelques réflexions. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen.